c'était Souchon pour ce soir, Absurdie des Noirs. C'est gentil,
Non, il n'y a pas de souci.
Eh ben, vous êtes toujours avec Idées Noires jusqu'à encore 10 minutes et on va passer une autre page.
Ouais, voilà, donc on va essayer de faire vite. Enfin, déjà que je parle très vite,
mais
je vais essayer de faire ça. Vous avez sûrement entendu parler de l'évacuation des trois gros campements de personnes roms qui vivaient encore sur Lyon, qui ont tous été évacués hier, il me semble, hier matin. Comme d'habitude, on va dire malheureusement. On sait aussi qu'il y a a priori un gros lien avec l'événement sportif de fin d'année scolaire, on va dire, avec l'Euro 2016 et avec l'accueil de matchs sur Lyon. Et donc du coup, faut faire ville propre, pas déconner quand même. Donc voilà, on voulait vous lire donc par rapport à ça le communiqué du MRAP Rhône et ensuite faire un petit point sur les expulsions 2015 en ce qui concerne les personnes roms. Donc voilà, donc le communiqué du MRAP. Depuis plusieurs années, le MRAP Rhône dénonce les expulsions de bidonvilles sans proposition d'hébergement en violation de la circulaire du 26 août 2012 et des traités européens. Mardi 12 janvier, la plupart des familles présentes sur les bidonvilles de Villeurbanne, Vaux-en-Velin et Saint-Priest se sont vues proposer des solutions d'hébergement, la plupart du temps à l'hôtel. Il s'agit donc là d'un progrès dans les pratiques de la préfecture. Le MRAP regrette toutefois le recours massif aux nuits d'hôtel très coûteuses et qui ne permettent aucun accompagnement social et s'interroge par conséquent sur la durée de la prise en charge et de son objectif. Le MRAP regrette les mensonges de la préfecture qui affirme systématiquement devant les juges qu'elle ne dispose d'aucune solution d'hébergement et qui vient de trouver miraculeusement plus de 200 places d'hôtel en une nuit. Enfin, le MRAP rappelle que la délivrance d'OQTF, donc d'obligation de quitter le territoire français, à des citoyens de l'Union européenne n'a absolument aucun sens étant donné qu'ils bénéficient de la libre circulation et peuvent donc revenir quelques jours plus tard sur le territoire français. Le recours abusif à cette procédure a d'ailleurs conduit la préfecture à délivrer des OQTF à des familles choisies pour intégrer, entre guillemets, les villages d'insertion. Si cette opération était finalement que de la poudre aux yeux et ne devait consister qu'à héberger quelques nuits les familles, les bidonvilles se reconstitueront et tout ceci n'aura servi absolument à rien si ce n'est à dépenser inutilement encore un peu plus d'argent public. Donc voilà, et pour revenir un peu sur les 2015, il y a eu plus de 11 000 personnes expulsées de leur campement cette année, l'année dernière. Donc du coup, 6 Roms sur 10 vivant en bidonville ont été délogés de force de leur logement de fortune l'année dernière en France, selon le recensement effectué par la LDH, la Ligue des droits de l'homme, et le ERCC, donc European Roma Rights Center, rendu public mardi 12 janvier. En 2015, pendant que l'afflux de réfugiés faisait la une des journaux, les Roms vivant en France ont continué de faire l'objet d'expulsions massives de leur logement. Donc au total, 11 128 personnes se sont fait évacuer de force par les autorités de 111 lieux de vie, selon le dernier recensement effectué donc par ces deux associations. Rendu public donc le 12 janvier, sans avoir la prétention à l'exhaustivité de la situation étant donné le manque de données officielles disponibles, ce recensement voudrait cependant en être l'expression la plus objective possible, notent les deux structures. De fait, aucun autre outil statistique n'existe et ça arrange bien tout le monde. Au total, 60% de la population vivant en bidonville a ainsi été délogée de force l'année dernière. Sur les 111 évacuations effectuées, les préfectures n'ont proposé des solutions d'hébergement temporaire que 29 fois, indiquent les mêmes sources, alors qu'elles sont censées le faire systématiquement. À la suite des 82 autres évacuations, les familles ont été tout simplement mises à la rue par les forces de l'ordre. L'immense majorité des terrains évacués, 80% sont des terrains publics, parmi lesquels seuls 5% se sont appuyés sur des projets de transformation des lieux pour justifier l'évacuation. Comme la répartition de l'occupation des terrains privés ou publics est plus ou moins égale, on voit qu'on a beaucoup plus de chances d'être évacué quand on occupe un terrain public. Ces évacuations forcées sont donc l'expression d'une volonté politique de rejet émise par un ensemble d'autorités étatiques. Nous assistons donc bien à une discrimination systémique de la part de l'État vis-à-vis de ces populations. On ajouterait même nous un peu de racisme d'État là-dedans, hein. En dernier recours, elles espèrent pouvoir compter sur la jurisprudence du Conseil d'État à propos de Calais. Une récente décision a en effet condamné l'État à rendre la jungle, entre guillemets, c'est comme ça qu'ils appellent ça, plus digne pour faire cesser les atteintes graves portées aux libertés fondamentales des migrants se trouvant sur leur site. Donc voilà, on fera un petit point, je pense, très rapidement là-dessus, parce que je pense que ça va, on va encore en parler, forcément. On voulait vous parler aussi d'un bouquin qu'on aura sûrement, j'espère, bientôt à la plume noire, qui s'appelle Face à la police, face à la justice. Donc c'est un petit guide d'autodéfense juridique qui a été paru la première fois, qui a paru la première fois en 2007 aux éditions Altiplano et qui a été repris et actualisé et augmenté par le collectif Cadécole. Il sera régulièrement actualisé sur le site actujuridique.com. N'hésitez pas à y faire un tour. La nouvelle édition donc est parue ce janvier, enfin très récemment là, en janvier 2016 aux éditions Sileps. Donc voilà, donc un petit topo sur le bouquin. Quand on participe à des luttes ou à des mouvements sociaux, hein, sans papier, mal logé, chômeur, travailleur, on est souvent confronté à la répression. Face à elle, on se retrouve pas tous dans la même situation. La justice fonctionne comme le reste de la société, dans un rapport de classe. Les moyens financiers, notamment pour payer les avocats, les relations, la connaissance du système et même la manière dont on s'exprime, tout ceci est déterminant face au juge. L'objectif de ce guide d'autodéfense juridique est d'aider celles et ceux qui décident d'assurer collectivement leur défense face à la répression la plus courante, celle dont se sert massivement la justice pour faire régner l'ordre social. La défense collective vise à se réapproprier les stratégies de défense qui doivent être choisies par les accusés et ceux qui s'organisent avec eux, et non exclusivement par ces spécialistes du droit que sont les avocats. Elle permet de ne pas se cantonner à l'aspect juridique et légal de la défense. Elle cherche à créer le rapport de force qui évite de laisser l'individu isolé face à la machine judiciaire. En dehors des cas de défense collective, le guide fournit à celles et à ceux qui sont confrontés à la répression pénale les moyens nécessaires pour la comprendre et s'en défendre le mieux possible. Donc voilà, on va essayer d'avoir ça rapidement à la plume lors des permanences de la librairie pour que vous puissiez, bah, pourquoi pas l'acheter chez nous. Hein. C'est 188 pages, c'est 10 balles, 10 euros. Donc voilà. Et pour
utile.
Finir...
Hein, utile.
Oui, très utile du coup. Ouais. Et donc il y aura aussi sur le site internet, hein, forcément, actujuridique.com. Et pour finir, alors je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire en 2 minutes c'est 15, vrai. Mais je vais essayer. Petite lettre trouvée sur le net. Voilà, qui s'appelle « Pourquoi je refuse de servir dans l'armée israélienne ?» Donc déclaration de Tahir Kaminer, une jeune israélienne de 19 ans qui est appelée aujourd'hui sous les drapeaux. Elle fait partie du groupe de lycéens Refusnik, Mezarvot, et elle a décidé de refuser d'effectuer un service militaire. Elle sera donc envoyée en détention. Voilà, 6 juin, dans l'article, une traduction de la déclaration qu'elle avait prévu de remettre aux officiers de recrutement aujourd'hui, donc parce que ça date du coup, c'est début janvier qu'elle devait intégrer voilà pour son service. « Mon nom est Tahir Kaminer, j'ai 19 ans. Il y a quelques mois, j'ai terminé une année de bénévolat avec les éclaireurs et éclaireuses israéliens dans la ville de Sderot, à la frontière de la bande de Gaza. Dans quelques jours, je vais aller en prison. J'ai été volontaire à Sderot une année entière. J'y ai travaillé avec des enfants qui vivent dans une zone de guerre. Et c'est là que j'ai décidé de refuser de servir dans l'armée israélienne. Mon refus vient de ma volonté d'apporter une contribution à la société dont je fais partie et d'en tirer un meilleur endroit pour vivre et de mon engagement dans la lutte pour la paix et l'égalité. Les enfants avec lesquels j'ai travaillé ont grandi au cœur du conflit et ont vécu des expériences traumatisantes dès leur jeune âge. Chez beaucoup d'entre eux, cela a généré une haine terrible, ce qui est tout à fait compréhensible, surtout chez les jeunes enfants. Comme eux, beaucoup d'enfants qui vivent dans la bande de Gaza et dans le reste des territoires palestiniens occupés, dans une réalité encore plus dure, apprennent à haïr l'autre côté. Eux non plus, on ne peut pas les blâmer. Quand je regarde tous ces enfants, la prochaine génération des deux côtés et la réalité dans laquelle ils vivent, je ne peux que voir la poursuite des traumatismes et de la douleur. Et je dis assez. Depuis des années maintenant, il n'y a aucun horizon politique, aucun processus de paix en vue. Il n'y a pas de tentative de quelque nature que ce soit d'apporter la paix à Gaza ou à Sderot. Tant que la méthode militaire violente règne, nous allons tout simplement avoir d'autres générations qui grandiront avec un héritage de haine, ce qui ne fera que rendre les choses encore pires. Nous devons arrêter ceci maintenant. C'est pour cela que je refuse. Je ne prendrai pas une part active à l'occupation des territoires palestiniens et à l'injustice qui est infligée encore et encore au peuple palestinien dans cette situation d'occupation. Je ne prendrai pas part au cycle de la haine à Gaza et à Sderot. La date de mon enrôlement a été fixée le 10 janvier 2016. Ce jour-là, je me présenterai au centre d'incorporation de Tel Hachomer pour y déclarer mon refus de servir dans l'armée et mon souhait de faire un service civil de remplacement. Lors de conversations avec certaines personnes auxquelles je tiens, j'ai été accusé de porter atteinte à la démocratie en refusant de respecter les lois adoptées par un parlement élu. Mais les Palestiniens dans les territoires occupés vivent sous la règle du gouvernement d'Israël, bien qu'il n'ait pas eu le moindre mot à dire dans l'élection de ce gouvernement. Je crois que tant qu'Israël continuera à être un pays occupant, il continuera à s'éloigner de plus en plus de la démocratie. Par conséquent, mon refus fait partie de la lutte pour la démocratie. Il n'est pas un acte antidémocratique. Je continue, hein, c'est pas grave, on dépasse un peu. Hein. On m'a dit que je fuyais ma responsabilité dans la sécurité d'Israël, mais comme une femme qui considère que toutes les personnes sont égales et que toutes leurs vies sont aussi importantes, je ne peux pas accepter que l'argument de la sécurité ne s'applique qu'aux Juifs. Surtout maintenant qu'il devient clair et évident que l'armée ne peut assurer une protection aux Juifs non plus, tandis que la vague de terreur continue. C'est très simple, on ne peut pas créer un îlot de sécurité au milieu d'une occupation qui opprime. La vraie sécurité ne pourra être obtenue que lorsque le peuple palestinien vivra dans la dignité et la liberté, dans son propre État indépendant aux côtés d'Israël. Il y a ceux qui s'inquiétaient de mon avenir personnel dans un pays où il est de la plus extrême importance d'avoir fait son service militaire dans le tissu des relations sociales quotidiennes. Soucieux de mes perspectives d'avenir, ils ont suggéré que je fasse l'armée indépendamment de mes opinions, ou au moins que je ne rende pas mon refus public. Mais à travers toutes ces difficultés et ces soucis, j'ai choisi de déclarer mon refus ouvertement pour que tous l'entendent. Ce pays, cette société sont trop importants pour moi. Je ne peux pas accepter de garder le silence et je ne le ferai pas. Ce n'est pas la façon dont j'ai été élevé. Ne m'occuper que de moi-même et de mes préoccupations personnelles. La vie que j'ai eue jusqu'à présent a tourné autour du don et de la responsabilité sociale et c'est ainsi que je veux qu'elle continue, même si je dois payer un prix personnel pour mon refus. Ce prix en vaudra la peine s'il contribue à mettre l'occupation à l'ordre du jour du discours public israélien. Beaucoup trop d'Israéliens ne ressentent pas directement l'occupation et ils ont tendance à l'oublier dans leur vie quotidienne, vie qui sont éminemment sûres comparées à celle des Palestiniens ou même des Israéliens qui vivent dans le Negev occidental, zone à la frontière de Gaza. On nous dit qu'il n'y a pas d'autre moyen que la voie militaire violente, mais je crois que c'est le moyen le plus destructeur et qu'il y en a d'autres. Je tiens à rappeler à tous qu'il existe une alternative, les négociations, la paix, l'optimisme, une véritable volonté de vivre dans l'égalité, la sécurité, la liberté. On nous dit que l'armée n'est pas une institution politique, mais la décision de servir dans l'armée est une décision hautement politique, tout autant que la décision de refuser. Nous, les jeunes, devons comprendre que comprendre toutes les conséquences d'un tel choix. Nous devons comprendre ces conséquences pour notre société. Après avoir mûrement réfléchi, j'ai pris la décision de refuser. Je n'ai pas peur de la prison militaire. Ce qui me fait vraiment peur est que notre société perde son humanité. Donc voilà pour cette lettre de Tahir Kaminer qui doit être à l'heure actuelle du coup en prison pour avoir refusé son service militaire. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc on rappelle vite fait parce qu'on peut déborder, hein, la lumière du frigo n'est pas là. Les activités qu'on a énoncées en début d'émission, donc avec le 20 janvier à la Bourse du Travail à partir de
18h30
pardon, avec un départ, ouais, ça va démarrer à 45 mais venez à 18h30 quand même.
18h30.
Donc voilà, réunion publique, voilà, en solidarité avec les migrants, migrantes et les réfugiés, avec une intervention notamment d'une avocate, Marie-Noëlle Fréry, c'est ça, je me suis pas trompé. Voilà, sur les nouvelles lois par rapport aux étrangers et étrangères, et ensuite voilà, petite discussion et questions avec le public, donc 18h30.
Et puis des actions à organiser aussi, évidemment.
Voilà, forcément. Le 22 janvier, une soirée organisée par la commission jeunesse de la coordination des groupes anarchistes avec projection du documentaire Je lutte donc je suis de Yanis Liountas, suivi d'un petite bouffe et de concert avec deux groupes.
Donc c'est
j'ai
quand,
perdu
c'est
les noms. Le 22 janvier, donc vendredi 22. Si, si, il est branché, je pense. Vas-y, je t'en prie. Ah non, il n'est pas branché. Vas-y maintenant, c'est bon.
Le 22, il y a la projection du coup du dernier film là, de Yanis Liountas. Je lutte donc je suis là, sur les différentes résistances qu'il y a en Europe, particulièrement en Espagne, en France et en Grèce. Après, il y aura une bouffe et une discussion sur les luttes à Lyon, ou quand, comment. En gros, c'est faire le point sur ce qui se passe à Lyon. Pour celles et ceux qui seront présents ce soir et qui veulent le plein d'infos sur qu'est-ce qui se passe à Lyon et la région, pour s'impliquer dans ce qui les intéresse et qui les motive. Et après, il y aura les deux groupes, donc Leprechauns, donc reggae folk irlandais,
c'est
et
Stukas,
donc un groupe de rock avec des reprises de Rage Against the Machine. Voilà. Deux groupes avec pas mal de gens du lycée Saint-Ex. Et une grosse pensée aux proches, aux familles, aux amis, après ce qui s'est passé aujourd'hui.
Du coup, on n'a pas parlé au début de l'émission, mais c'est vrai que du coup. C'est un peu compliqué. Il y a une sortie de ski apparemment avec les collégiens de Saint-Ex aujourd'hui. Il y a eu une avalanche. Il y a déjà plusieurs mortes confirmées, que ce soit au niveau des collégiens ou de l'encadrement. Et il y a encore pas mal de gamins qui n'ont pas été retrouvés. Donc voilà, Petite pensée à tout le monde. J'enchaîne quand même avec le reste des activités. Ouais. Le 29 janvier, donc à 18h30 à la Pluie Noire, donc on vous le rappelle, hein, on l'a dit en début d'émission, de bien être à l'heure, parce que la personne qui intervient, Sayad Tekir, donc porte-parole du mouvement arménien Nord Zartonk, voilà, il est assez pressé après, parce qu'il doit partir, donc il partira pile poil à 21h.
Il faut
donc
venir bien à 19h.
Enfin, 18h30, et pour qu'on démarre bien à 19h, quoi, voilà, vraiment.
À 19h.
Donc lutte arménienne, lutte des minorités en Turquie et point sur la situation actuelle. Voilà, si on trouve après un petit concert, enfin voilà, un petit
ou un film,
ou un film. Ben voilà, on verra ce qu'on peut vous proposer. Le 30 janvier, formation droit d'asile avec une camarade de Marseille qui viendra donc à la Plume Noire avec pareil projection de petits documentaires.
Voilà, ouais, donc c'est une spécialiste du droit d'asile. Il y aura une formation qui sera sur le droit d'asile. Et comme en fait le aussi un peu le 20 janvier à la Bourse du Travail avec les nouvelles lois ou le quotidien, comment les démarches se font. Il y aura également des projections de petits documentaires qui ont été faits par le collectif Soutien Migrants 13. Donc des documentaires qui ont été faits par le collectif qui retracent les luttes qui ont été faites à Marseille depuis plusieurs mois maintenant. Voilà, et table d'infos pour faire le plein d'infos sur les luttes à Marseille et les infos juridiques. Et également est prévue une traduction simultanée donc en anglais et en arabe pour les demandeurs d'asile qui souhaitent venir. Et du coup pour la formation également, pour poser des questions à la camarade marseillaise qui pourra voilà répondre à des questions pratiques sur les démarches administratives juridiques sur le droit d'asile, donc pour que la formation, les questions, le débat soient le plus accessible possible, donc en français, en anglais et en arabe.
Donc voilà, et pour finir sur les activités, on rappelle les permanences, donc mercredi 17h-19h, samedi 15h-19h à la Plume Noire, 8 rue Diderot, et on rappelle aussi donc les cours de langue qui ont démarré depuis 2 semaines, les lundis à 18h à la Plume Noire également. Donc là, la même façon, voilà, si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés, soit pour aider, donc participer à ces cours, soit pour bénéficier de ces cours de langue, notamment on a la recherche de matériel pédagogique, voilà, pour pouvoir étayer un petit peu nos propositions aux personnes qui viennent.
Des bouquins, des manuels, des CD d'apprentissage, même des films, à vrai dire, donc
tout ce qui pourrait aider en fait, voilà, pour les personnes
si,
qui viennent.
Il y a des personnes qui souhaitent venir, c'est le moment, c'est le tous les lundis à 18h. Le mieux, c'est avant de nous envoyer un mail, donc à groupe-lyon@c-g-a.org,
ou via la page
tout
Facebook,
simplement parce que bah, comme ça en fait on sait qui vient et on prévoit qui s'inscrit du coup pour chaque lundi, pour que voilà il y ait un meilleur accompagnement possible sur les cours de langue. Voilà,
on sait qu'il y a une longue attente pour ceux voilà qui ont fait la demande d'asile, même pour celles qui ont été acceptées pour avoir accès à des cours. Enfin, des cours de langue, c'est hyper compliqué, c'est hyper long. Donc, autant donner la main tout de suite et pour les aider un petit peu là-dedans, quoi. Donc, voilà. Bah, écoutez.
On vous dit à mercredi prochain.
Voilà. Et puis, voilà. Et puis au mieux, à la perme de samedi, si vous voulez passer, papoter.
Voilà. Sur
15h, 8 rue Diderot.
Sur notre générique de fin. Et on vous dit à mercredi, donc.
Ciao, ciao.
À ce même micro.